Angle mort du jeudi 26 mars. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je réponds à la suggestion de Paul Tardif. Salut Paul. Merci d'être un auditeur assidu. Il me dit qu'il n'en manque pas une. C'est super. Puis il m'écrit comme d'autres d'ailleurs. Je trouve ça fort intéressant. Et Paul m'a amené sur un sujet qui est, parce qu'il était au courant que j'étais un ancien gérant d'artiste. Moi, quand j'ai quitté Québec pour arriver à Montréal, c'était... excusez-moi, c'était juste pour rire. Je vais vous conter la petite histoire d'abord, puis après ça, on va parler un peu showbiz, mais particulièrement de la télévision. Ce sera ça aujourd'hui. Puis je vais vous parler de l'appareil lui-même, la télévision, parce que j'ai acheté une télé quand j'ai aménagé ici en janvier. Et j'ai fait une gaffe. Cette gaffe que je vais espérer que vous ne reproduirez pas. Donc, on commence au début, juste pour parler du parcours qui fait en sorte que je réponds à ce que Paul demande, c'est-à-dire mon angle sur le showbiz québécois par rapport au fait que j'ai été dans les coulisses pas mal. Et le suis encore, dans le fond, parce que je connais plein de monde qui travaille activement, télé, humour ou autre. Donc, moi, j'ai fait mon droit, mon stage, etc. J'ai été assermenté à Québec en mai 93, si je ne me trompe pas. C'est pas clair, mais on va dire, je l'ai ici. Là. 91 ou 93, en tout cas, de même. On va faire de même, mai. Mais ce que je voulais, moi, depuis tout le temps, c'était de travailler dans le showbiz, puis travailler en com, etc. Donc, j'avais écrit à Gilbert Rozon, direct. Et il m'avait engagé. Il m'avait dit, garde, j'ai pas de job pour toi, mais manifestement, t'es fait pour travailler là-dedans. Ça fait que j'ai commencé à Juste pour rire, à la billetterie, et croyez, c'est ça, franchement, faut-tu vouloir. Et trois semaines avant, j'étais au palais de justice, on m'appelait Maître Boilard, puis trois semaines après, je prenais des commandes de billets, t'sais. Parce que moi, c'était, je me suis dit, c'est là que je vais. J'avais la même attitude que quand j'étais allé à Paris. C'était pas négociable, t'sais. Puis là, blablabla, bon, on devient gérant d'artiste, etc. Puis quand t'es gérant d'artiste d'humoriste, je spécifie, c'est pas la même affaire pour un comédien, un chanteur, un humoriste. Encore aujourd'hui, c'est vrai. À l'époque, il y avait même... Moi, j'ai connu j'ai connu l'époque là, où tu affichais ton spectacle pur inconnu au Théâtre Saint-Denis, puis toute la presse le couvrait, puis tu vendais l'étiquette. C'est... Je viens de vous raconter l'histoire de Michael Rancourt. Michael Rancourt, imitateur de talent, mais totalement inconnu, faisait le circuit des congrès parce qu'il était booké par Pierre Gravel, qui est un agent impresario basé à Granby, qui aujourd'hui doit être fort probablement à sa retraite, parce que je pense qu'il avait donné ça à sa fille. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, puis avec qui j'ai beaucoup de bien à dire, très efficace. Puis lui, Pierre, avait comme... C'était comme le point de rencontre de tout le marché des congrès puis du corpo. Puis même s'il y avait des artistes inconnus, ses clients se fiaient sur lui, puis à partir du moment où il était bon, ben il roulait. Il roulait fort, là. Il faisait là, dans les six chiffres. Là. Personne ne savait c'était qui. Puis un jour, ben, pour mousser la demande corpo, parce que lui, tout passait avec une logique de mousser le corpo, ben il partait avec des artistes comme ça à l'occasion, puis surtout des imitateurs, puis il les envoyait au Saint-Denis. Puis là, on était là, nous autres. Voyons, Michael Rancourt, c'est qui, ça? Puis la grosse première, comprends-tu, les journalistes, « Ah, voici Michael Rancourt. » Puis il vendait l'étiquette. Je ne dis pas qu'il en vendait 100 000, mais il vendait l'étiquette. Il était capable. Puis même s'il arrivait even, bien là, ça moussait épouvantable. Ça demande en corpo, là, tu sais, donc pour faire aller faire un show d'une heure d'imitation dans un congrès. Ça, c'est le top, parce que les humoristes, des fois, un trouve la joke bonne, l'autre pas. En corpo, c'est toujours bien, bien straight. Là, tu sais, là, t'as la femme du président qui est là. « Ah, il faut pas déplaire à la femme du président. » Il y a tout ça, là, tu sais. Ça fait que quand t'es gérant d'humoriste ou d'imitateur, là, j'appelle ça, mettons, appelons ça variété, t'es appelé à connaître toute la business. Parce que t'as un de tes clients qui est à radio à C'est quoi, moi, c'était ça. T'as un de tes clients qui fait un spectacle, t'as un de tes clients qui fait un corpo. T'es partout. T'es partout dans le showbiz. Tous les éléments. Tu connais les bookers, tu connais le directeur de la programmation, tu deals avec lui, etc. Ça fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu as une vision de ce milieu-là, puis tu le regardes évoluer, tu le regardes se démener, je dirais, surtout depuis l'avènement d'Internet. Puis tu comprends aussi les rouages. Tu comprends pourquoi, quelque part, on voit toujours les mêmes faces. Tu comprends pourquoi, bizarrement, les émissions de télé, contrairement au show d'humour, font pas de rodage. L'émission, elle commence le jour 1, bang! Le décor, tout est là. Alors, eux autres, des fois, ils ont fait des petites pratiques, Mais dans la vraie vie, il n'y a pas de système de rodage. Tu comprends plein d'affaires. Puis je vais répondre particulièrement à la question pourquoi on voit toujours les mêmes faces. Puis pourquoi on entend le même monde à radio, puis souvent, puis ça, c'est une fausseté qui circule beaucoup, c'est « Ah, mon Dieu, c'est ingrat, la radio, du jour au lendemain, tu peux perdre ta job. » Attendez, ça, c'est vrai dans les radios habituellement plus musicales. Dans les radios parlées, je vous ferai remarquer que vous entendez tout le temps les mêmes voix pendant des années de temps. C'est comme si ces gens-là étaient irremplaçables. Ça fait que, tu sais, je veux dire, Paul Arcand, il est là depuis quand? Paul Hood, il était là combien de temps? Isabelle Maréchal, name it, ils sont tous là, on dirait, depuis 10 ans minimum. Puis là, tu fais, attends un peu, c'est-tu vraiment les meilleurs pour la situation? Les antennes vieillissent beaucoup. En radio parlée, les antennes vieillissent l'enfer. Les jeunes n'écoutent pas ça zéro. Ça fait que tu te poses la question. Puis la réponse à ça, c'est l'influence des ventes. C'est-à-dire que les ventes ont toujours eu une influence importante sur le produit, le choix des gens qui s'en vont en onde, et c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas être une radio privée, puis donc on exclut Radio-Canada de ça, qui pourtant se comporte pareil. Tu peux pas être une radio privée qui marche exclusivement sur les revenus publicitaires, aucune subvention ni rien. Puis après ça, dire « Ah, les ventes, on s'en sacre, nous autres, on pense qu'on fait ça parce que ben non. » Donc moi, je pense que même ces départements-là ne se parlent pas assez et de la bonne façon, je l'ai vécu. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas demander non plus l'avis des vendeurs pour savoir qui est-ce qu'ils veulent mettre en onde, parce qu'un vendeur n'a qu'une optique à court terme. Le vendeur marche habituellement avec une portion à commission. Lui, il veut savoir que le lendemain que quelqu'un est en onde, ou même lorsqu'on va annoncer, ce que j'appelle le principe du communiqué de presse, quand on va annoncer qui va être en onde, il faut qu'il puisse tout de suite avoir des clients intéressés. C'est pour ça que vous voyez tout le temps le plus gros nom disponible partout, sans se soucier réellement s'il va pouvoir livrer puis prendre des codes d'écoute de X puis les monter à X fois 1, fois 2, fois 3, fois 4. Et étant donné qu'Internet est venu tout changer la donne, que ça a scrappé les revenus publicitaires des médias, l'influence des vendeurs a pris de la place. C'est pour ça que dans la radio à Québec, notamment, vous avez vu autant de chaises musicales depuis les 4 ou 5 années, l'enfer. Il y a eu une couple de scandales, là, du monde, tu sais, comme Gilles Parent, qui tout à coup ont dû quitter leur poste, etc., puis bon, et d'autres à droite, à gauche. Mais en dehors de ça, la stabilité est tough à garder parce que les revenus tombent, puis à un moment donné, tu essayes quelqu'un, la personne est le plus gros nom disponible, donc la chaise musicale, puis après 1 an, des fois 2 ans, dépendamment de la durée des contrats, on se rend compte que ça ne livre pas au quotidien, parce que c'est au quotidien qu'il faut que tu livres, tu sais. Alors, en un mot, prendre un exemple, si tu annonces que c'est Madonna qui va faire ton émission du morning, bien évidemment, le jour 1, il va y avoir du monde à tabarouette qui vont écouter. Mais si Madonna est plate le lendemain, puis le mercredi, puis le jeudi, ça va être Madonna, tout le monde va écouter ailleurs. Personne ne va écouter juste quelqu'un qui a de la notoriété. Il faut pouvoir livrer. Puis livrer en radio, c'est pas pareil que de livrer en télé, par exemple. Alors, un peut faire l'autre, on le voit à l'occasion, mais c'est pas si fréquent que ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est très bon à radio, exemple, Véronique Cloutier, c'est pas parce qu'elle est bonne à TV qu'elle est bonne à radio. C'est parce qu'elle est bonne à radio en soi. Elle pourrait arrêter de faire de la TV complètement, puis elle resterait une très bonne animatrice. Mais il y a du monde qui se sont cassés les dents en radio puis qui avait pourtant beaucoup de notoriété. Puis ces gens-là, bien, c'est juste qu'ils ne sont pas capables de livrer au quotidien. Parce qu'il faut que tu sois intéressant ou que tu saches faire vraiment un job d'animation. Puis l'animation, la plus belle définition que j'ai vue, ça ne fait pas si longtemps d'ailleurs, moi j'adhère à ça totalement. La définition d'animer, ça vient du latin animare, qui veut dire mettre de l'âme. Puis c'est exactement ce que ça fait un bon animateur. C'est-à-dire que tu prends des gens autour qui peuvent, à la rigueur, ne pas avoir rapport, un qui n'est pas à l'aise, l'autre qui parle trop, un qui est confiné dans son sujet, etc. Puis tout à coup, tu brasses les cheveux, tu dépeignes tout ce beau monde-là. Puis les voilà formant une espèce d'équipe improvisée, puis les gens trouvent ça intéressant. C'est ça, un animateur. Ça met de l'âme. Ça prend pas juste une information, ça met de l'âme. Donc, les vendeurs ont eu, au fil du temps, à cause de ce que je vous explique, donc la crise des médias, les ventes au total plus tough, ont eu plus d'influence. Et c'est pour ça que, tout à coup, vous avez l'impression que il y a des essais genre Stéphane Rousseau avec son dernier talk show. Tu fais... Il me semble que quand on regarde Stéphane animer les premières émissions, on se dit, ce gars-là, c'est pas sa chaise. N'importe qui connaît ça, c'est pas sa chaise. Le show a été un flop total. Le concept était pas là, vous allez dire, mais peu importe. C'est pas la chaise qui fitait pour Stéphane. Sauf que c'était probablement le plus gros nom disponible. Donc, 3 mois avant que ça commence, le vendeur se fait dire, « Hey, devine quoi, notre talk show, c'est Stéphane Rousseau. » Le vendeur se retourne vers sa ronde de clients. Ça va être Stéphane Rousseau. Le client, lui, il a bien d'autres choses à faire dans la vie. Il est content de savoir que c'est avec une grosse vedette. Il signe le contrat, bang. L'artiste sort, il livre pas, les codes d'écoute sont pas là, le client est déçu. Puis après ça, on espère être capable de relancer ça une autre fois. Ça prend beaucoup de courage pour dire, écoutez, on va mettre quelqu'un en onde, on pense qu'il est vraiment intéressant, ce gars-là, cette fille-là, soit qu'on a des chiffres qui montrent qu'il y a une tendance, quand on le met en onde, ça pousse, ou que, juste sur le feeling qu'on l'a vu en réunion, puis le staff, puis le monde, il l'aime. Puis quand on a fait un screen test avec lui, bien, les gens aiment ce qu'ils voient. C'est très, très rare. C'est presque inexistant, ce que je viens de vous dire. Or, c'est quoi la définition d'un expert? C'est pas quelqu'un qui fait juste dire « voici le plus gros nom disponible ». Puis cette ritournelle-là, ben, a fini par coûter à tout le monde. C'est-à-dire que tu te ramasses avec des animateurs qui finalement livrent pas. Je veux pas donner d'exemple, il y en a plein, à vrai dire la majorité, c'est ça. Mais il reste que c'est un peu ça. Ça fait que quand vous dites qu'on voit tout le temps les mêmes faces, ben vous avez cette explication-là. Donc les ventes à très court terme. D'un autre côté, tous et chacun sont responsables de ça, parce que on montre que si tu mets un « tout le monde en parle » avec zéro vedette, bien souvent, le chiffre global est moins fort que si tu as Martin Matt. Ça fait que le public aussi, excusez-moi, mais tout le monde est responsable de cette idée-là. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, OK? Le bordel. Puis là, à ce moment-là, ça enlève la responsabilité au public, là, mais moi, j'aime pas faire ça. Habituellement, je pense qu'on est tous et chacun responsables du monde dans lequel on vit. Mais le bordel, donc le comedy club, là, aux 6 humoristes, incluant Mike puis Martin Petit, tout ça, eux autres, ils ont décidé dès le départ qu'ils annonçaient jamais leur show. Ils roulaient au début 3 fois par semaine. Maintenant, ils sont plus que 7 shows par semaine. Ils sont ouverts 7 soirs. Puis il y a des choses que c'est 3 fois par soir. Je pense que c'est 7 heures, 9h30, puis 11h30, un truc comme ça, les jeudis, vendredis, samedis. Il y a 10-12 shows par semaine, là. Puis jamais, ils n'annoncent personne. Puis au début, c'était extrêmement audacieux. Moi, j'y croyais moyen. Puis finalement, ils ont gagné leur pari à mort. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éviter de dire « Ah, c'est lui, j'y vais, c'est pas lui, j'y vais pas. » Non, terminé. C'est comme tu vas au bordel, puis eux autres, ils s'assurent de la qualité. C'est-à-dire qu'ils bookent du monde, qui sont capables de livrer un bon numéro, connu ou pas. Puis j'entends personne qui passe une soirée au bordel, puis qui est déçu parce que c'était plate. Jamais. Ça fait que ça, c'est une façon de gérer là, qui est A1. C'est exceptionnellement bon. Mais cette philosophie-là, ça prend du courage. Puis plus il y a de monde qui décide, plus t'as le VP patente, le gars de la pub, la fille de la programmation, name it. Là, il y a tout le temps quelqu'un qui commence à être frileux dans le processus puis qui fait qu'on s'en retourne à la case départ que je vous expliquais, quel est le plus gros nom disponible. Ça fait que, voilà, c'est comme ça que ça marche. T'sais. Ça ne marche pas vraiment sur... C'est très bizarre, d'ailleurs, parce que des unités de mesure, des sondages, il y a plein de façons de savoir, surtout avec les médias sociaux. Tu peux voir qui reçoit des commentaires, etc. Tu es capable de faire le tri là-dedans, encore une fois, si tu es un expert. C'est tout. Moi, j'ai écrit mon troisième livre, ça s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent », puis j'ai tout un chapitre sur les plaintes, où j'explique que les plaintes, c'est pas par définition mauvais. Quelqu'un qui porte plainte, c'est d'abord quelqu'un qui est très, très fan. Tu portes pas plainte de quelque chose que tu t'en sacres. Ça fait que si tu te plains en disant « ça, j'aime pas ça, ça, je trouve que c'est de même, ça n'a pas d'allure, etc. », c'est que tu as un vif intérêt, ne serait-ce que pour le médium, la case horaire, la station, la personne elle-même, etc. C'est que faire le tri dans les plaintes, ça aussi, c'est un degré d'expertise qui n'est pas donné à tout le monde. Ça fait que, bref. Alors, donc, si tu me demandes, Paul, c'est quoi ma vision du showbiz, je te dirais que la principale explication, c'est que il y a quelques personnes en télé, contrairement à Internet, où tout le monde peut s'exposer avec les succès qui sont suscités par le grand public. Il y a encore des gens qui décident de ce qu'on voit à TVA, à V, etc. Je trouve qu'ils se sont particulièrement bien virés récemment, avec des succès à la District 31, Occupation Double, etc. Julie, je l'écoute pas, ça fait que je sais pas, j'entends toutes sortes d'affaires. Elle est renouvelée, semble-t-il que ça fait l'affaire de V. Tant mieux. Tant mieux. Moi, j'aime mieux un projet qui marche qu'un projet qui ne marche pas. Ça m'apparaît vite de même un peu de la TV d'hier plus que d'aujourd'hui. Mais ça a l'air à marcher. Ça fait que, comme je dis, tant mieux. Le vrai défi de la télé, c'est de toucher aux deux mots qui font que l'Internet marche, c'est-à-dire la spontanéité puis l'authenticité. Je ne crois pas que ça va se faire tout le temps en prenant le plus gros nom disponible, à moins que ces gens-là puissent effectivement rentrer dans cette case-là. Mais ce qui fait le succès de toutes les YouTubers, c'est les deux mots que je viens de vous dire. Ça fait que plus la télé va aller là, plus ça va être risqué, plus il y a des vendeurs qui vont crier, plus il y en a, sauf qu'à quelque part, tu peux bâtir un succès à ce moment-là. Ça fait que cette idée-là de partir en Lyon, tantôt je ne vous l'ai pas dit, là, quand je vous disais le principe du communiqué de presse, mais vous aurez compris entre les lignes sûrement, c'est l'idée de dire que le plus important, c'est d'annoncer quelqu'un de hot et non pas d'avoir une équipe qui va monter l'audience au jour le jour. Puis le pire, c'est que c'est quand même ironique parce que par définition, un média peut créer sa propre vedette. T'sais, tu ne peux pas être une compagnie d'assurance puis créer ton VP marketing. Je veux dire, il faut qu'il arrive d'ailleurs ou qu'il pousse dans l'entreprise. T'sais, tu ne peux pas, du jour au lendemain, dire « Regarde, lui, là, il est super hot, on l'a créé dans notre propre système. » Mais en télé, tu peux créer ta vedette. Mais il faut qu'elle soit bonne. Il faut que ce soit quelqu'un qui est hot. Mais il est zéro obligé d'être connu. Il faut juste, quand il arrive à TV, il correspond à tes objectifs qui, techniquement, devraient être d'avoir des codes d'écoute, là. À moins qu'on ne soit plus dans le même business. Ça fait que, écoutez, j'essaie de vous mettre ça le plus clair possible. Ceci étant dit, vu que c'est un petit spécial télé, je vais vous faire la parenthèse par rapport à mon achat. Alors, j'ai acheté, là, je vais parler plus aux geeks, aux cracks, puis à ceux qui aiment la techno, mais parce que moi, j'aime bien ça. J'en parle rarement, mais je pourrais en parler plus. À vous de me le dire. Je suis, au moment où on se parle, devant la nouvelle télé que j'ai faite livrer par Amazon en janvier. Je vous dirais que j'ai eu ça à peu près autour du 25 janvier. J'étais allé en Floride chez ma sœur du 11 au 19, et puis j'ai emménagé ici, quartier des spectacles, où j'étais avant d'ailleurs, là, mais avec toutes mes élucubrations de radio à Québec, j'étais beaucoup dans le Québec-Montréal. Puis là, ben, j'avais laissé ma télé, je l'ai donnée à Éric Duhem, avec qui je travaillais. Il m'avait passé à deux reprises, ben, pas passé, il m'avait loué un condo qu'il y avait dans le Vieux-Québec, puis un condo qu'il y avait au rez-de-chaussée, un 4 logements qu'il avait acheté et qui est tout en train de rénover. Ça fait que très chic de sa part, on s'est fait un deal rapidement, bang. Puis à un moment donné, j'avais une grosse plasma de 50 livres, là, une plasma d'une autre époque. Là, ça datait probablement de 10-12 ans, cette télé-là. Elle marchait très bien, mais j'ai fait, moi, je ne redéménage pas ça. T'sais, j'avais juste des sacs là, à Québec. Là, quand j'allais là, j'avais entreposé mes vrais meubles de Montréal, là, ici, pas loin. Et puis, no way là, que j'allais ramener une TV. Puis c'est comme, elle a fait son temps. T'sais. Mais l'image était impeccable. Fait que là, je commence à regarder ça un peu, tu sais, magazine, regarde les specs, etc. Puis je m'intéresse beaucoup à la techno, mais en même temps, je me rends compte que c'est pas vrai que je connais ça aux endroits où ça fait la différence. C'est pour ça que je vous mets en garde. On regarde souvent la résolution. Moi, là, je regardais résolution, grosseur d'écran, OK, point barre. Puis après ça, je faisais un ratio par rapport au prix. Puis il y a une compagnie, TCL, que j'ai vu surtout sur Amazon, qui avait des critiques extraordinaires, puis qui coûtait vraiment une fraction du prix de d'autres télés. Ça fait que je suis tombé sur cette télé-là, qui était en rabais alors que c'est déjà la moins chère, une 65 pouces TCL 4K avec le Roku intégré, là, comme un Apple TV, pour 600. Ça, en tout cas, ça coûtait livraison inclus. Moi, je suis membre Prime, là, la livraison est inclue tout le temps ou presque. Ça a coûté, je me souviens, 689 $ pour une télé 65 pouces 4K. J'ai fait, c'est extraordinaire. Puis pour moi, c'était le seul critère. Mais savez-vous quoi? C'est pas le seul critère. Il y a vraiment, là, au niveau du hardware, manifestement, puis le processeur, etc., comme un ordinateur, il y a bien d'autres paramètres. Ce qui fait que je vous annonce officiellement que deux jours après que j'avais acheté ma TV, j'étais déçu. J'étais complètement déçu. Ma plasma était bien meilleure. La résolution, la qualité de l'image, les noirs étaient beaucoup plus noirs, les contrastes étaient meilleurs. Là, j'ai une télé là, qu'on me disait qui était à niveau, c'est faux. J'ai une télé bas de gamme, j'ai une TV TCL que si je pouvais retourner, puis je suis trop large pour recommencer, c'est trop gros les packages, de la marde. Je la garde, puis au pire, si mes affaires vont bien, j'en achèterai une autre, puis je la mettrai je sais pas où, je la vendrai à quelqu'un. C'est comme... À part quand c'est littéralement en 4K, là, mettons le film Fury, là, que j'aime beaucoup avec Brad Pitt, là, le film sur le char d'assaut là, en Deuxième Guerre mondiale, qui est en 4K HD, t'sais, là, vraiment, tu fais comme, OK, là, quand c'est la totale. Mais moi, c'était pas ça avant. Là. J'étais pas en 4K, je processais, tu sais, comme... c'est normal, j'étais en 1080 ou des fois en 720, puis à travers mon Apple TV, c'est pas un Apple TV 4K, tu sais, il y a quelques années. J'avais aucun de ces problèmes-là, j'étais vraiment pas dans ces qualités d'image-là. Là, tu sais, le grain est trop gros. En plus, le nombre de paramètres que j'ai, c'est tout fixé d'avance ou presque. C'est que la version illuminée, je trouve tout le temps que l'écran est sombre. Oh, zéro. Ça fait que ce que je veux dire, là, en conclusion, parce que loin de moi, je suis chialé, restons en mode solution. C'est que c'est drôle d'acheter une TV sur Amazon, là, c'est très, très drôle. Mais la réalité, c'est que si tu vas chez Best Buy ou un magasin électronique local, parlons de plus en plus de local, là, à Québec, mettons Maison Adam ou autre, ah oui, peut-être tu vas payer 88$ de plus, parce qu'honnêtement, on parle de différences complètement insignifiantes, mais tu vas avoir quelqu'un qui va te l'expliquer, puis surtout, tu vas vraiment voir, dans vraie vie, là, tu vas voir une TV à côté de l'autre, puis tes yeux, pas à travers l'écran que tu magasines sur Amazon, mais tes yeux vont dire, ah, ça c'est intéressant, ça, celle-là, je l'aime, vois-tu, l'image de celle-là est belle, crème en bout de ligne, là, quand même qu'on t'explique les specs, c'est toujours bientôt que va le vivre. Ça fait que moi, j'en faisais, tu sais, j'allais au Best Buy sur Sainte-Catherine, puis je checkais, puis là, quand je suis arrivé, là, puis je l'ai acheté en me disant, ah, moi, Amazon est noué, hein, je suis donc hot, je connais ça, ben oui. Ça fait que je les avais en face, les bonnes TV, puis je me souviens d'avoir vu une Sony qui coûtait 1100$ au lieu de 700$ que j'ai payé. Pour 400$, écoute, j'en écoute-tu de la TV, tu penses? Ça fait que là, pour 400$, au lieu d'avoir une TV la même grosseur, ou peut-être même un peu plus petite, là, who cares, ben 400 balles qu'une TV, ça dure 10 ans. Moi, le cave, j'ai été chercher celle que je trouvais, haha, c'est la même chose. Puis, fait que faites pas cette erreur-là. Donc, TCL, je dis pas que c'est pas fiable ni rien. Là. Puis les reviews, je sais pas pourquoi c'était aussi dithyrambique. Peut-être que je suis entouré de gens qui y font pas la différence. Puis ça, c'est l'autre affaire. Il y a du monde, là. Je veux dire, moi, j'ai un de mes amis qui a acheté la 75 pouces TCL. Il est ravi, c'est fantastique. Ben non, c'est pas fantastique. D'après moi, il y a du monde qui sont sensibles à ces différences-là technologiques, puis au niveau, tu sais, la qualité d'image, etc. Ou le son, c'est pareil. Justement, le même gars que je vous parle, à un moment donné, il avait acheté des faux EarPods, puis là, je dis, c'est-tu le même son? Il dit, oui, 30$ au lieu de 200. Bon, déjà. Ça fait que je les essaye, ça sonne la canne épouvantable. Non. Mais lui, il voit-tu la différence? Je sais pas, tu sais. Ça fait que, bref, faites attention. Achetez local, ça, de un. Si vous avez un magasin électronique à côté, bien, je trouve que c'est mieux que d'aller sur Amazon. Là, moi, maintenant, j'ai ma leçon. Puis, allez les voir, les télés. Faites comme, regarde, c'est elle que je veux. Tu sais, c'est sérieux, là. Ça vaut la peine en tabarouette. Ah, voilà, c'était mon petit spécial TV et semi-montée de lait envers moi-même. Je vous souhaite une bonne journée. On se reparle demain.